Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans la maison du Seigneur et le Seigneur a promis d'être avec nous. Et comme il a promis d'être avec nous, il a promis que le Consolateur, le Saint-Esprit, sera toujours avec nous. Et le Consolateur, a dit Jésus, c'est un autre lui-même. C'est Jésus lui-même, par la puissance de l'Esprit, qui est au milieu de nous, qui est dans notre cœur, dans notre vie. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous bénit, et il veut le faire aussi ce matin. Même si les choses que nous allons partager ensemble ne sont pas les choses les plus réjouissantes, parce que nous poursuivons notre petite série, des choses plus réjouissantes, vous les avez déjà dans votre cœur et vous pouvez les repasser. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, nous pouvons dire merci au Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Genèse 3, les versets 7 à 13. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre méditation de ce matin, « Le péché qui a tout bouleversé ». J'aimerais partager quelques pensées sur le thème que nous avions indiqué déjà pour aujourd'hui, les conséquences du péché. Le mal n'est pas une bagatelle. Il n'est pas anodin. Il suffit de considérer attentivement les conséquences temporelles et éternelles qu'il a provoquées. Elles seront éternelles pour ceux qui, à l'exemple de Caïn et de bien d'autres, se laisseront accaparer par le mal. Le péché endurcira leur cœur, le diable les asservira et ils finiront avec lui dans l'enfer éternel. Première conséquence du péché, la nudité. La nudité, c'est le signe que le péché a produit son effet. À peine Adam et Ève avaient-ils péché qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Leur innocence originelle a disparu. Le mal et la corruption de l'être tout entier a pris la place de Dieu dans leur cœur. Cette nudité n'a rien à voir avec l'aspect sexuel de l'être humain créé par Dieu. Nous n'aborderons pas cette question maintenant, mais dans le cadre de la sanctification. Cette nudité donc n'est pas seulement extérieure et corporelle, mais elle est essentiellement intérieure et spirituelle. C'est la nudité de notre être intérieur créé à l'image de Dieu dont il est question ici. La prise de conscience de la nudité corporelle est le signe évident de la nudité spirituelle. Nudité qui exprime la pensée divine sur notre état de créature séparée de Dieu à cause du péché. D'ailleurs, les hommes et les femmes qui aujourd'hui encore se révoltent contre Dieu démontrent leur nudité spirituelle par leur nudité corporelle. Ils s'opposent ouvertement et catégoriquement à Dieu en refusant leur dépendance à son égard, en transformant leur corps créé par Dieu selon les penchants naturels et répréhensibles de leur mauvais cœur. Plus ils se déshabillent, plus ils se mutilent, plus ils se modifient, plus ils se maquillent et se défigurent, plus ils sont fiers et arrogants de montrer au monde et aux puissances qu'ils sont leur propre Dieu. Ils transgressent délibérément et expressément la volonté de Dieu à leur égard parce qu'ils sont intérieurement totalement corrompus par le péché et esclaves du diable. Ils sont de ce fait infiniment malheureux. Leur vie n'a plus de sens. Ils sont comme des misérables, pauvres et aveugles, errants éperdument dans le désert de ce monde. En effet, puisqu'ils sont nus, ils ne savent plus ni qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils n'ont plus de réponse à leurs questions existentielles. Ce sont des êtres humains emportés par le vent de la destruction, déracinés de leur origine. Ils sont apatrides, solitaires, sans père, ni mère, ni famille, ni maison. Leur identité spirituelle et éternelle s'est désintégrée dans l'abîme de la désolation. Et quelqu'un n'a-t-il pas dit tout à l'heure que nous vivons dans un monde de désolation ? Les ténèbres du dehors les aveuglent. Leur intelligence est obscurcie par la puissance du péché et leur cœur est endurci par le pouvoir de Satan. Ainsi, ils s'égarent dans la voie du malheur et un dommage extrême les atteindra. Ils finiront leur parcours dans le gouffre du désespoir, sans paix, sans pardon, sans Dieu. Telle est la conséquence morale du péché, c'est-à-dire de la transgression de la loi de Dieu. Cette transgression engendre la culpabilité et la crainte du jugement. Et le jugement conduira au châtiment éternel. C'est pourquoi, deuxième conséquence du péché, la peur. La peur, maintenant, est le signe que la conscience est troublée. La nudité est le signe que le péché est une réalité effective dans leur cœur, dans leur âme. Et maintenant la peur, signe que la conscience est troublée. Dès l'instant où nos premiers parents ont mangé du fruit défendu, le résultat nocif du péché ne s'est pas fait attendre. Adam et Ève se sont cachés devant Dieu, pour échapper à sa présence, vous vous rendez compte, comprenant pertinemment bien que leur relation personnelle avec Dieu a été brisée. Ils ne pouvaient plus regarder Dieu en face parce qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire à Dieu, qu'on soit nus ou pas ? On le voit de toute façon. Ils étaient honteux, confus de ne plus être en état de grâce devant leur Créateur, ni couverts par la justice bienveillante du Seigneur, car ils avaient gravement offensé sa majesté et sa sainteté par leur désobéissance. Alors ils ont eu peur et se sont cachés. Et comme nous venons de le suggérer, la crainte du châtiment promis et annoncé par Dieu a eu raison de leur quiétude. Leur conscience encore active les accuse effectivement d'avoir péché, de s'être révolté contre Dieu. Mais Dieu voit tout. Il sait tout. Il appelle alors Adam et lui dit « Où es-tu ?» Et Adam répondit « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu répliqua « Qui t'a dit que tu es nu ? As-tu mangé du fruit défendu ? » Chers amis, cette peur est et révélatrice de la nouvelle condition spirituelle de l'homme. Elle restera incrustée dans sa conscience jusqu'à la fin des temps. Tous les hommes seront plus ou moins affectés par cette culpabilité récurrente et chercheront à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne Adam et Ève, réalisant que la rupture entre eux et Dieu était achevée, ils se revêtirent de ceintures de feuilles de figuier pour essayer de se justifier aux yeux de Dieu. Ils tentèrent de protéger leur nudité spirituelle à leur façon. Mais comment ? Quelques feuilles de figuier pourraient-elles protéger l'homme de sa corruption intérieure ? De la défiguration de l'image de Dieu en lui, de sa rébellion contre Dieu et de son allégeance à l'ennemi. D'ailleurs, qui pourrait se cacher aux yeux de Dieu ? Adam n'a pas réussi, car nulle créature ne peut se soustraire au regard de Dieu, regard de flamme qui embrase tout et qui dévoile tous les cœurs. Devant l'Éternel, à qui nous devons rendre compte, tout est à nu et à découvert. Rien, absolument rien ne lui échappe. Pourtant, depuis ce jour, l'homme sans exception, par sa nature adamique corrompue par le mal et inévitablement pécheresse, l'homme ne peut faire autrement que de chercher à se justifier devant Dieu par tous les moyens à disposition. Et parfois même les chrétiens. Moi le premier, nous tombons dans ce piège. La preuve, c'est qu'Adam a rejeté sa faute sur qui ? Oh, la femme que tu m'as donnée. C'est qu'Adam a rejeté sa faute sur Ève, et Ève sur le serpent, voulant se disculper en accusant Dieu d'être responsable de leur malheur. C'est ici l'évidence de la corruption de l'homme par le mal. Il est aveugle en ce qui le concerne. Il est séparé de Dieu. De là sont issues toutes les religions du monde, inventées et créées par l'homme. Elles sont toutes sans exception aucune, sans valeur spirituelle, ni méritoire, ni expiatoire, en aucune façon et à aucun moment. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes souillées par le mal, conçues et pratiquées dans le péché. Il faut le souligner fermement, car cela est très important pour le développement de la vie chrétienne. Rien, non absolument rien, de ce qui peut venir de l'homme adamique, que l'Écriture appelle le vieil homme, sous quelque forme que ce soit, ne peut être toléré par Dieu. Pour la justification, bien entendu. Car Dieu ne se compromet pas avec le péché. Jamais. Néanmoins, depuis la nuit des temps, les hommes ont imaginé un nombre infini de divinités, bonnes ou mauvaises. Ces faux dieux, ils devront les exaucer par d'innombrables sacrifices sanglants, comme on a entendu tout à l'heure dans la lecture du psaume 16. Ces faux dieux, dis-je, ils devront les exaucer par d'innombrables sacrifices sanglants, sanglants ou non. Ils vénéreront les uns, haïront les autres, craindront les autres et deviendront ainsi idolâtres, adorant les œuvres de leurs mains. Ils montreront par là que la pensée de l'éternité est inscrite dans leur cœur et que leur conscience, quand elle n'est pas totalement cautérisée, leur rappelle l'existence de Dieu, le créateur de l'univers, s'ils veulent bien l'avouer. Ainsi, la plupart des hommes reconnaissent leur culpabilité, du moins dans leur fort intérieur, et, curieusement, savent naturellement qu'il faut, pour calmer la colère des dieux, offrir des sacrifices sanglants. Qui leur a appris ça ? Relisez un peu plus loin dans Genèse 3. L'homme, quoique devenu son propre Dieu, ne peut cesser d'adorer, de rendre un culte à une divinité quelconque, d'être idolâtre envers la création et la créature, et que sais-je encore, etc., etc. Il est ainsi un témoignage pour lui-même de la réalité de l'existence de Dieu. Il est donc inexcusable. car connaissant la vérité, il la retient injustement captive. Et au lieu de chercher Dieu, le seul Dieu vivant et vrai, il s'élève lui-même sur le trône divin. Non pas qu'il puisse se sauver par lui-même, mais parce que la réalité de l'existence de Dieu est gravée dans son cœur, est perceptible dans la création. Il aurait dû chercher le Seigneur, ne serait-ce qu'en tâtonnant. C'est ici la preuve de son péché, et de sa culpabilité, et de sa juste condamnation par Dieu. L'homme est vraiment mort spirituellement. Troisième conséquence, la mort spirituelle signe que la sanction de Dieu est effective. La nudité corporelle est le signe que le péché a fait son œuvre, a produit ses effets dans le cœur de l'homme. La crainte est la preuve que l'homme est coupable. Il a peur parce qu'il sent, parce qu'il sait sa culpabilité. Et maintenant, la mort spirituelle est le signe que le jugement que Dieu avait dit à Adam et Ève a bien été exécuté. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ne connaissaient pas par expérience ce que signifiait la sanction divine. Mais la prise de conscience de leur nudité et la crainte qu'ils ont éprouvée après avoir commis leur faute leur a montré que Dieu avait dit vrai. En fait, comme nous l'avons déjà indiqué, la nudité spirituelle de l'homme est, de la part de Dieu, le symbole de la rupture de sa relation avec sa créature. C'est aussi du côté de l'homme le signe concret de son éloignement face à Dieu. Cette nudité spirituelle lui rappellera constamment qu'il est responsable de son péché et que par sa faute, le chemin du retour dans le paradis est humainement parlant fermé à jamais. C'était son choix. C'est pourquoi l'Écriture le considère comme mort spirituellement. L'homme créé par Dieu était une âme vivante, capable de communiquer avec Dieu par le moyen de l'Esprit que Dieu lui avait donné. Il était une créature, certes, mais comblée par Dieu de plusieurs aptitudes, comme on l'a entendu tout à l'heure, propres à faire de lui un partenaire de Dieu dans la gestion de la création. Maintenant, à cause du péché, la ressemblance avec Dieu a été dénaturée. L'image de Dieu en l'homme a été défigurée. Il est devenu indépendant vis-à-vis de Dieu, qui, dans son amour, respecte la volonté de l'homme. Quand Jésus raconte la parabole des deux fils que l'un voulait partir, le Père l'a-t-il retenu ? Il ne l'a pas retenu. Par voie de conséquence, Dieu, qui ne peut se renier lui-même, accomplira aussi sa sentence à l'égard du péché. Ainsi, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, car l'Éternel avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est donc séparé de Dieu, éloigné de sa présence et privé de sa communion. L'intimité avec Dieu est devenue impossible, car l'inimitié entre Dieu et l'homme a pris sa place. Cette inimitié est irréductible, irréparable. La situation de l'humanité est dès lors sans issue. Il n'y a pour elle aucun secours, aucun recours, humainement parlant. Elle est perdue. Il ne lui reste plus que l'attente terrible du jugement dernier. En effet, sans relation avec le Créateur, source de toute vie, l'homme a beau dire et faire tout ce qu'il veut, il ne vit plus vraiment. Dans ce sens-là, le jour même où il a goûté du fruit défendu, il est mort. Vous avez encore un peu de patience ? C'est sympa, merci. Il nous reste encore deux conséquences. La mort, quatrième conséquence, la mort corporelle. Après la mort spirituelle, la mort corporelle. La mort corporelle est le signe explicite de la mort spirituelle. La mort corporelle ou physique est également une conséquence du péché. Elle est devenue nécessaire du fait que le corps de l'homme participe à la dépravation engendrée par le péché. L'être adamique tout entier, corrompu par le péché, ne peut être recréé. Il finira sa course dans la poussière d'où il a été pris. Là, il se décomposera à part le corps du Seigneur, comme on a entendu dans le psaume 32, hein, c'est juste ? Ah pardon, 16 que tu as lu. Là, il se décomposera jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus et que le lieu où il était ne le reconnaisse plus. Cette mort physique est l'image de la nature même du péché, anormale, indécente, répugnante, honteuse et monstrueuse, car elle ne correspond pas à la volonté de Dieu qui a créé l'homme à sa ressemblance, plein de vie et de vitalité, pour demeurer avec lui toujours. L'homme ne devait pas mourir. Toutefois, cette mort corporelle n'est que, entendons bien, toutefois cette mort corporelle n'est que l'aspect matériel et visible de la mort spirituelle, qui elle est immatérielle et invisible. Elle n'est pas, la mort corporelle n'est pas la fin de tout, mais elle est une occasion pour l'homme de réfléchir à sa destinée future. C'est pourquoi les chrétiens ont bien compris qu'il faut évangéliser quand il y a un décès, un ensevelissement. C'est une occasion de réfléchir. De réfléchir à sa destinée finale. En effet, s'il persiste, si l'homme persiste dans la mort spirituelle, sous le jugement divin, s'il ne se repent pas de son péché, de ses mauvaises œuvres, alors il demeure sous la colère de Dieu. Il mourra, mais il ressuscitera et sera condamné à la perdition éternelle. La mort corporelle, donc, n'est qu'une transition de l'état temporel vers l'état éternel, de la condition mortelle vers la condition immortelle pour les élus comme pour les perdus. Car tous les hommes, sans exception, les grands et les petits, les savants et les ignorants, les pauvres et les riches, les jeunes et les moins jeunes, les justes comme les injustes, ceux qui ne sont jamais nés comme ceux qui sont morts d'une manière particulière, bref, tous comparaîtront un jour devant Dieu. Ceci nous amène à notre cinquième et dernière conséquence du péché, la mort éternelle. Après la mort spirituelle, après la mort corporelle, qui est le signe évident de la mort spirituelle, et la preuve que nous avons péché, la mort corporelle, vient la mort éternelle. Conséquence effective et définitive du péché. La mort corporelle atteste la réalité de la mort spirituelle, puisqu'elle s'étend à tous les hommes. Et pourquoi ? Parce que tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, elle prouve, si besoin était, la réalité du péché. Si les hommes n'avaient pas péché, si l'humanité n'avait pas péché, personne ne devrait mourir. Mais ces deux aspects de la mort, la mort spirituelle et la mort corporelle, sont aussi les signes évidents et avant-coureurs. Le Seigneur nous prévient de la mort éternelle pour ceux qui seront condamnés au jour du jugement qui vient. Et cette mort éternelle, sera l'exécution effective et définitive de la sentence divine sur le péché. Voyez-vous combien de patience Dieu a jusqu'à ce qu'il exécute sa sentence d'une manière définitive et irréversible. Toutefois, comme le dit l'Évangile, dont la première proclamation a été faite à Adam et Ève, Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son sort tragique, mais il a prévu une solution au problème du péché. Après avoir instruit nos premiers parents à propos des conséquences de leur péché, Dieu leur a fait une menace. Une promesse. Dieu leur a fait une promesse. Elle leur a annoncé l'évangile du salut. Il leur a affirmé qu'une descendance viendra écraser la tête du serpent et sauver l'humanité de son péché. Et ceux qui croiront en cette parole, qui s'accomplira en son temps, ceux-là seront sauvés. Et pour montrer la validité de cette espérance, c'est-à-dire que le pardon des péchés sera véritablement accordé à ceux qui croient, au fait que la descendance promise versera son propre sang en rémission des péchés, Dieu sacrifia lui-même des animaux, versa leur sang et couvrit Adam et Ève de peau d'animaux. Il n'était alors plus. Ce sang des animaux, comme le sang de tous les sacrifices d'animaux qui suivront, ce sang était le signe précurseur du sang de l'agneau de Dieu qui viendra ôter le péché du monde. C'est sur cette victime expiatoire, sur Jésus, que tous les regards des croyants de l'Ancienne Alliance se focalisera désormais. Et c'est en perspective de l'accomplissement de sa promesse immuable que Dieu pouvait pardonner aux pécheurs repentants qui mettaient leur confiance en lui et en la parole de la promesse. Car seul le sang de Christ efface le péché, et c'est en vertu de son seul sacrifice que le salut peut être accordé à tous les élus de tous les temps. Adam et Ève ont cru. Adam et Ève ont cru en la promesse divine. Et pour témoigner de leur foi, Adam a donné un nouveau nom à sa femme. Elle ne sera plus appelée Isha, c'est-à-dire femme, mais elle sera appelée Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. Ou bien celle qui est la dispensatrice de la vie. Imaginez, mes chers amis, ce que Ève a dû penser lorsque son fils premier-né a tué son frère cadet. Qu'a-t-elle bien pu dire à son mari? Oh, si telle est la condition de la vie sur terre, alors je ne veux plus d'enfants. Oh non, merci bien, c'est fini. Et d'après vous, qu'est-ce qu'Adam a bien pu lui répondre à sa femme Ève, dispensatrice de la vie? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Ève, ma chère Ève, je te comprends. C'est affreusement triste ce qui nous arrive. Mais souviens-toi, comment la descendance promise viendra-t-elle et écrasera-t-elle la tête du serpent si nous n'avons plus d'enfants? Car ce n'est certainement pas par Caïn que Dieu accomplirait sa promesse. Ah non, pas par lui, s'il vous plaît. Plus tard, Ève enfanta un fils qu'elle appela du nom de Seth, ce qui veut dire mise à la place de. À la place de qui? À la place d'Abel que Caïn a tué. Et c'est effectivement de la lignée de Seth que viendra le Christ, le fils d'Abraham, fils de David et fils de Marie. On l'appellera Jésus, ce qui veut dire sauveur. Ainsi, Abel, Enoch, nous commençons par Adam. Adam, Abel, Enoch, Noé et tous les anciens, puis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Israël, des prophètes comme Moïse, des rois comme David, et tous les héros de la foi, tous ceux-là, et beaucoup plus encore, ont cru en la promesse de Dieu. Et par la grâce de Dieu, à cause de son amour pour les pécheurs perdus, ils ont reçu par la foi la certitude qu'ils entreront bientôt dans la cité permanente, celle qui n'a pas été créée de main d'homme, mais par Dieu lui-même. Et cette cité-là, ils l'ont vue et saluée de loin. Tu la vois aussi déjà, la nouvelle Jérusalem? tous qui sommes enfants de Dieu. Nous formons la nouvelle Jérusalem. Par conséquent, quand je te vois, ma sœur, quand je te vois, mon frère, je vois déjà la nouvelle Jérusalem qui n'est pas créée par des mains d'hommes, mais qui est l'œuvre du Saint-Esprit, comme on a entendu tout à l'heure. C'est nous l'Église de Dieu. C'est nous l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est celle-là, la nouvelle Jérusalem, qui descend auprès de Dieu. C'est le peuple de Dieu. La Babylone, ce sont les perdus. La Jérusalem, c'est toi, c'est moi, si tu crois. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je la vois maintenant, la nouvelle Jérusalem. J'attends de voir encore Dieu et nous tous glorifiés dans la présence du Seigneur. Mais pourtant, malgré cette extraordinaire nouvelle, malgré tous les témoins de la foi, malgré tous les hauts faits du Seigneur, certains demeureront dans le péché, persisteront dans leur révolte contre Dieu et seront irrémédiablement perdus. Quel dommage! Quel dommage! Pour ceux qui iront à la perdition éternelle, la mort spirituelle deviendra définitive. C'est la seconde mort pour eux, car ils n'ont pas eu part à la première résurrection. Cette mort, cette seconde mort, sera éternelle. Elle sera l'aboutissement du mal, la rétribution du péché. Elle consiste en une existence consciente dans un lieu de tourment affreux où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour tous les pécheurs incrédules et impénitents. C'est les temps de feu et de soufre dont parle Jésus à propos de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Là, le feu qui brûle ne s'éteint pas et le ver qui ronge ne meurt pas. C'est le remords perpétuel, le regret brûlant d'avoir su l'amour de Dieu et de n'avoir pas voulu son salut. Cette existence dans les ténèbres du dehors sera terrible parce que justement, elle sera sans vie, sans vie, sans lumière, sans amour, sans paix et sans espérance. En effet, sans la présence divine, rien de ce qui vient de Dieu ne subsistera. Tout ne sera que ténèbres, haine et violence et mort. Tout ce qui vient de Dieu aura réellement et définitivement disparu. Ce sera la solitude la plus effroyable, dans le désespoir le plus complet. L'éloignement de Dieu sera infini, et Dieu lui-même ne pourra pas franchir l'abîme qui sépare le ciel de l'enfer. Je comprends tous ceux qui disent, ou qui pensent, ou qui espèrent qu'il n'y aura pas d'enfer. Je les comprends bien. Ça doit être quelque chose d'inimaginable, inconcevable. Dans ce lieu invivable et intolérable, il n'y aura plus rien de l'activité terrestre. Plus de travail, plus de joie, plus de mariage, plus de famille, d'affection, d'amitié, de convivialité, de fraternité, de bonheur. Bref, plus rien, absolument plus rien. Plus rien qui faisait que le pèlerinage ici-bas était, malgré le péché, une réalité vécue dans la présence de Dieu et dans sa grâce, même pour les hommes du monde. C'est encore vivable. Mais là, dans la seconde mort, l'existence ne sera faite que de mort, rien que de mort, tout de mort, à l'infini et à jamais. Car telle est la nature même du mal, dont Dieu, dans son amour insondable, voulait nous épargner les conséquences par la mort de Jésus sur la croix. Certes, et il faut le préciser, l'homme spirituellement mort ignore qu'il est nu. Il ignore qu'il est nu. Sur le plan de la justice divine, il ne le sait pas. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans sa misère et dans son ignorance. Il a prévu pour lui un salut en Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Salut dont la croix est le témoignage irréfutable. Cependant, et malgré la croix et tous les appels pathétiques de la part de Dieu envers les hommes perdus, certains subiront la mort que le mal a engendrée. Et pourquoi? Parce qu'ils se seront laissés enchaîner par Satan et entraînés par lui sur ce chemin maudit du péché et de la mort. Et finalement, au grand jour de la résurrection, chacun devra rendre compte à Dieu devant le juge suprême, assis sur son grand trône blanc. Car Dieu, le juste juge, ne peut laisser impunis ceux qui auront bafoué sa grâce, méprisé le sang de Christ et rejeté le Fils de Dieu. Personne n'ira en enfer à cause de son péché adamique. Personne. Jésus, l'agneau de Dieu, est venu ôter ce péché. Mais tous ceux qui iront en enfer parce qu'ils auront refusé la grâce, bafoué la grâce, méprisé le sang de l'Alliance et rejeté le Fils de Dieu. Je termine par une note un peu plus joyeuse. Mais vous connaissez ces mais dans l'Écriture ? Romains 3, par exemple, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et puis tout à coup, il y a mais. Mais ils sont gratuitement justifiés. Car Dieu, le juste juge, ne peut pas laisser impunis ceux qui auront bafoué sa grâce, méprisé le sang de Christ et rejeté le Fils de Dieu. Mais, j'aime ces mais. Mais tous ceux qui, par la grâce de Dieu, seront vêtus de la justice de Dieu et auront reçu les arts de l'Esprit, seront admis dans la présence de Dieu. Ainsi, la vie ayant englouti la mort, ils pourront se revêtir de leur domicile céleste et ils seront pour toujours avec Jésus. Ils seront vêtus, pas nus, ils seront vêtus de robes blanches, c'est-à-dire couverts de la justice divine, la couronne de victoire sur leur front et des palmes à la main et le visage rayonnant de joie. Ils chanteront et célébreront sans fin les louanges de Dieu, le Créateur, et de Jésus, leur bien-aimé Sauveur et Seigneur. Serons-nous tous parmi les vainqueurs ?